vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Mais vous aimez le cinéma, ça tombe bien, je vais parler cinéma. Je prends la suite d'Alim qui vous a aussi parlé de cinéma. Donc voilà, c'est la fin de matinée cinématographique. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un film qui parle de cinéma. Il s'agit du film de Jean-Luc Godard, Le Mépris, avec, comme vous le savez, Brigitte Bardot et Michel Piccoli, et aussi, et surtout, peut-être presque, Fritz Lang. Fritz Lang, le réalisateur de M. le Maudit, entre autres, voilà. Et qui donc, c'est un mélange de gens qui font partie de l'ancien cinéma et du nouveau, Fritz Lang avec l'ancien et Brigitte Bardot, qui à l'époque, le film a été tourné en 1963, est une star mondiale, adulée complètement, et qui en même temps, comme on le sait maintenant, comme on connaît le personnage de Bardot, à un moment dans le film, elle joue le rôle de Camille, elle dit « j'ai besoin d'obscurité et de silence ». Ben oui, je crois que la star Brigitte Bardot a eu aussi besoin de silence et un peu d'obscurité. Alors le cinéma parle de cinéma, eh bien c'est une phrase simple, il se trouve que je parle de ça parce que j'ai mis en place une série de conférences à Clapier où justement je choisis des films qui parlent de cinéma et je fais une espèce de petite analyse comme ça sur un certain nombre d'extraits de films. Alors quand on pense à des films qui parlent de cinéma, c'est vrai qu'il y en a des tonnes. Notamment, vient à l'esprit sans même réfléchir, 8 et demi de Fellini, vous avez La Nuit américaine de Truffaut, Au travers des oliviers de Kiarostami, mais il y a aussi un film tout récent, celui de Nanni Moretti, un excellent film de 2015, Mia Madre. Donc ce sont des films où les cinéastes filmant sont les protagonistes des films, ou en tout cas donnent un rôle à un personnage qui peut être leur alter ego, c'est le cas de Mia Madre de Nanni Moretti. Alors Le Mépris, puisque je veux vous parler du Mépris aujourd'hui, film de 1963, on s'aperçoit que Piccoli, qui tient le rôle de Paul Faval, au fond, avec sa dégaine, son chapeau fumant, il ressemble beaucoup à Godard, voilà. Même si ça n'est pas du tout un autoportrait. Mais au-delà de ça, on peut dire que tout grand film interroge le cinéma, interroge le spectateur qui se révèle à lui-même, mais ça interroge souvent aussi le réalisateur qui se révèle à lui-même. Et le film n'existe, au fond, que par le regard du réalisateur, mais aussi celui du spectateur. Le film est pris en sandwich entre ces deux regards. Et d'ailleurs, Godard, qui adorait les slogans, dit « Si mettre en scène est un regard, monter est un battement de cœur », ce à quoi j'adhère évidemment puisque je suis monteuse. Et donc c'est vrai qu'effectivement, à partir des images qui sont le regard du réalisateur, la façon de le mettre en mouvement, la façon de le rythmer, c'est son battement de cœur en effet. Et dans le regard, on s'aperçoit que la caméra, effectivement, dès les premières images du film, et on va s'écouter le début du film, c'est un générique parlé par Jean-Luc Godard, donc vous allez entendre la voix de Jean-Luc Godard, qui énumère les acteurs, le responsable de l'image, c'est Raoul Coutard, de la musique, Georges Delru, du son, Civelle, montage, Agnès Guillemot, etc., etc., de la régie, il va terminer par le réalisateur, donc Jean-Luc Godard. Il ajoute même le format, c'est du scope, le laboratoire GTC qui a malheureusement aujourd'hui disparu, mais qui développait les films en 35, et puis la production qui est une coproduction franco-italienne. Et le son off est accompagné par une image qui montre évidemment la caméra qui se déplace sur un travelling qui arrive jusqu'à nous. C'est Raoul Coutard qui est aux commandes et tout d'un coup quand il est en plan très rapproché, il fait un léger panoramique, il se retourne vers nous et donc nous sommes filmés d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'objectif de la caméra se tourne vers nous, spectateurs. Le spectateur regardant est regardé. Et puis après, il va citer une phrase d'André Bazin. Le cinéma est un regard qui se substitue à un monde, qui s'accorde à nos désirs. La vraie phrase, c'est « Le cinéma est un regard qui se substitue au nôtre pour nous donner un monde accordé à nos désirs. » Et Godard d'ajouter « Le mépris, c'est l'histoire de ce monde. » Donc on va écouter tout ça et on va même prolonger jusqu'à une séquence très intéressante qui démarre le film et on voit Brigitte Bardot nue à côté de Michel Piccoli et elle fait l'inventaire de ses genoux, ses pieds, qu'elle voit d'ailleurs elle lui dit, tu les vois dans mon miroir? Donc le miroir, c'est intéressant parce que le film Le Mépris, qui est donc l'histoire d'un tournage d'un film qui s'appelle L'Odyssée, tournage réalisé par Fritz Lang. Tout ce film est en miroir. L'Odyssée, qui est sur le film avec les personnages principaux, écrit par Homer, eh bien, on peut dire que ce soit Camille jouée par Bardot ou par Paul jouée par Piccoli, ils vivent aussi une odyssée. Donc, on écoute tout de suite, c'est le mieux, le film de Jean-Luc Godard.
C'est d'après le roman d'Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georges Amol. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique. Et le son a été enregistré par William Sivel. Et d'Agnès Guillemot. Philippe Dussart s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati. C'est un film de Jean-Luc Godard. Il est tourné en scope et tiré en couleur par GTC à Joinville. Il a été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Compagnia Cinématographica Champion à Rome.
Nous sommes là donc en plan.
Le cinéma, André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs.
En plan très rapproché sur Raoul Coutard.
Le mépris et l'histoire de ce monde.
Et la caméra se tourne. L'objectif descend vers nous. Et nous sommes filmés d'une certaine façon. Et là, nous passons dans la scène avec Bardot.
Je pense que j'irai chez maman. Mais après, je sais pas.
Viens me chercher si tu veux. À 4 heures. À Cinecittà. Je dois discuter avec cet Américain.
Oui, peut-être.
Et l'image est colorée en rouge.
Tu vois mes pieds dans la glace?
Oui.
Tu les trouves jolies?
Oui, très.
Et mes chevilles, tu les aimes?
Oui.
Tu les aimes, mes genoux aussi?
Oui, j'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses?
Aussi. Oui. Très. Ça va.
Et mes soeurs, tu les aimes?
Oui, énormément.
L'image devient jaune.
Tu les aimes?
Oui.
Moi, je trouve qu'elles sont pas assez rondes.
Et la caméra fait un travelling latéral sur tout le corps de Brigitte Bardot, nue.
Et mon visage?
Aussi.
L'image devient bleue.
Tout. Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles.
Oui, tout.
Donc tu m'aimes totalement.
Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement.
Moi aussi, Paul.
Bien, merci.
Voilà, donc là, vous venez d'entendre évidemment le début culte de ce film. Alors, tout simplement, il se trouve que ce sont les producteurs qui avaient imposé à Godard de filmer Brigitte Bardot nue, parce qu'effectivement, elle était sublime. Et donc, il a voulu, bon, il a été un peu contraint de le faire, mais en même temps, il a fait exprès de le mettre complètement au début du film. Comme ça, voilà, ça y est, c'est fait. Mais la caméra de Godard est très respectueuse, très fine, très délicate. Ça n'a rien à voir avec la façon dont elle a pu être filmée dans d'autres films. Il y a, je crois, une espèce de respect total de Godard vis-à-vis de Bardot. C'est-à-dire que c'est pas, il n'est pas en train de filmer Camille qui est jouée par Bardot, il joue plutôt Bardot qui joue Camille, ce qui est très différent, évidemment. Et d'ailleurs, à un moment, vous savez que bon, il y a toujours des citations avec Godard, plein de phrases, et notamment un Piccoli sur la fin, il dit c'est incroyable, les filles, on les connaît, elles sont en jupe, elles font du cinéma, et ben elles montrent leur cul. Voilà. Donc, c'est un peu une façon, une réponse, voilà ce que souhaitent les producteurs, bien évidemment. Alors, le deuxième décor, là où nous entrons, c'est les rues de Cinecittà. Alors il faut quand même savoir juste un petit mot de Godard, mais enfin vous le connaissez je pense parce que j'ai déjà parlé de Godard sur ses ondes et j'ai même parlé de À bout de souffle. C'est vrai qu'il est connu surtout Godard pour son premier long métrage, c'était À bout de souffle avec, vous souvenez, avec Belmondo et Ginsberg, et c'était dans la mouvance de la nouvelle vague. Et Godard, il s'est imposé en effet dans cette nouvelle vague qui date des années 59-60 avec toutes leurs rites, on filme en décor naturel, voilà, etc., etc. Il s'est aussi imposé comme critique, il travaillait au Cahier du cinéma avec ses copains Truffaut, Romer, Rivette, voilà. Et puis, il faut quand même reconnaître que Godard, il s'est imposé surtout comme un personnage extrêmement médiatique qui maniait le paradoxe avec beaucoup de provocation. Voilà. Donc, dans un monde du cinéma, si le cinéma était un royaume, j'ai envie de dire que c'était presque un fou, une espèce de bouffon, vous savez, celui qui est insolent et qui ose dire les choses. Il était un des rares à oser critiquer la profession. Voilà, un professionnel qui critiquait la profession. Et donc, Le Mépris, bah, c'est une adaptation d'un roman de Alberto Moravia. Eh bien, très simplement, j'ai envie de dire, c'est surtout un film, c'est devenu un film de Godard. Alors, c'est l'histoire de quoi ? Bah, c'est l'histoire d'un couple joué par Camille et Paul, que vous venez d'entendre, et qui, c'est un couple qui se bat ou se débat à un moment particulier, le moment de leur désamour. Voilà. Et ils vivent une tragédie. Dès le départ, vous entendez Piccoli qui dit « Je t'aime tragiquement ». Oui, il y avait quelque chose de très fort comme ça. C'est-à-dire que c'est une tragédie qui est d'autant plus cruelle qu'au fond, on ne sait pas pourquoi il y a une rupture. C'est l'incompréhension la plus totale, mais elle existe. Alors, puisque c'est un film qui parle du cinéma, après nous rentrons dans les rues de Cinecittà. Cinecittà, vous savez que c'était la cité du cinéma. Mais on s'aperçoit que les murs sont extrêmement délabrés. Et quand on regarde un peu plus loin, il y a toujours des grands travelling latéraux qui montrent donc, je le répète, des murs délabrés. Puis on s'arrête sur des portes qui, là aussi, entraîne une réflexion sur le cinéma. Notamment, il y a une grande porte sur laquelle il y a marqué Teatro 6. Donc ça veut dire que tout d'un coup, il y a quelque chose de latéral. La théâtralité dans le cinéma de Godard, mais dans le cinéma d'une façon générale, existe aussi au cinéma. Voilà. Et alors, qu'est-ce que l'Odyssée ? Parce que le film qui se tourne de Fritz Lang, c'est l'Odyssée. Alors, juste un petit rappel pour vous dire, bon, évidemment que l'Iliade et l'Odyssée ont été écrits par Homère. Voilà, excusez-moi. Voilà, et donc, l'Iliade, c'est différent de l'Odyssée, parce que l'Odyssée, c'est plutôt une histoire horizontale. En général, dans les Odyssées, d'ailleurs les cinémas, les scénarii, ils sont souvent soit des Odyssées, soit des Iliades. Soit ce sont des parcours horizontaux, le personnage avance, ne fait pas du tout de retour en arrière, c'est le cas des personnages qui sont dans le film Le Mépris, qu'ils tournent aussi leur Odyssée. Et sinon, l'Iliade, c'est plutôt on joue plutôt dans la verticalité. L'Odyssée, Queneau disait, c'est un récit à plein temps. Oui, l'Odyssée, c'est un voyage, c'est une marche. On ne revient jamais en arrière dans une Odyssée. On a des mouvements, des arrêts difficiles, mouvementés, mais on avance. Et c'est bien ce qui va se passer, c'est que l'avancement, si je puis dire, des sentiments aussi bien de Paul et de Camille vont aller jusqu'à la rupture, évidemment. Alors, pardon, on pourrait dire aussi que très vite, il y a une espèce de, Camille, qui tout d'un coup va être blessée par une attitude de Paul, joué par Piccoli, va tout d'un coup se murer dans le silence, mais depuis le démarrage, on sent que elle dit « Ah ben si c'est ton avis, les premières phrases, souvenez-vous, qu'on a entendues, ben elle est en train de dire « Ben je sais pas, si on relève toutes les phrases courtes qu'elle dit, on s'aperçoit qu'elle est toujours dans le silence. Même quand elle parle, et c'est vrai aussi du dialogue entre Paul et Camille, même quand ils parlent, au cœur de leur dialogue, il n'y a que le silence. Ils sont incapables de se dire quoi que ce soit. Et elle n'arrête pas de dire « je ne sais pas ». Ou tout d'un coup, on les invite à Capri, elle dit « j'irai pas ». Le côté répétitif, ça, il l'aime bien, parce que tout d'un coup, le sens n'a plus d'intérêt, c'est tout d'un coup comme un... C'est plutôt des sons. « j'irai pas ». Et en réalité, elle va y aller. Donc voilà, il y a aussi, à un moment, elle va quand même oser dire une phrase, et d'emblée, tout de suite après, elle va dire « oublie les choses que je t'ai dites, comme si je ne t'avais rien dit. » Voilà, donc, et je vous le disais tout à fait au début, j'ai besoin de silence et d'obscurité, phrase évidemment qui est aussi la demande de Bardot, qui est devenue une superstar et qui vit mal d'ailleurs cette façon de procéder. Alors je vous propose d'aller écouter une autre séquence, et notamment c'est chapitre 15. Alors donnez-moi juste un peu de temps pour que j'aille, que je passe au chapitre 5, 6... 7, 8, 9, 10, comme ça vous m'accompagnez, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Et donc là, on est dans une séquence qui se passe dans l'appartement entre Paul et Camille. Camille, là, est au téléphone. Elle feuillette un livre qu'a donné Procoche. Procoche, c'est le producteur qui a demandé à Paul de réécrire l'écriture du scénario L'Odyssée. Et donc, elle feuillette des livres, ce livre, et ce sont des photos érotiques de l'ancien temps, de l'Antiquité. Voilà. Livre qui va passer des mains de Procoche aux mains de Camille, puis aussi ensuite aux mains de Paul. Ça veut dire que c'est tout d'un coup des images à l'intérieur déjà du film.
Voilà Paul. Je vous le passe.
Allô, monsieur Procoche? Oui.
Alors qu'il est au téléphone, il se trouve que Camille se promène et la caméra la suit en travelling latéral. Elle marche très droite. Elle est dans la deuxième phase où tout d'un coup, elle a commencé par dire à Paul qu'elle le méprisait.
J'ai pas envie de descendre, acheter des trucs et de remonter.
Et le décor là aussi est un décor théâtral avec des portes qui s'ouvrent, qui se ferment.
Très bien.
Elle casse des...
On va rejoindre Procoche et Pitzlang de la
Elle laisse tomber des assiettes.
Ils veulent voir une chanteuse qui passe en attraction pour nous écarte. On dînera après.
Ça va faire tard s'il y a un film avant.
C'est filmé de telle façon que...
Je veux voir le film, ça me donnera des idées.
Paul parle off. On ne filme que Camille qui déambule dans l'appartement.
Tu parles de prendre des idées dans ta tête.
Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il prend? Alors, Camille...
Bon, allez, dépêchons-nous.
Voilà, j'en étais sûr.
Quoi?
Maintenant que je dis oui à Jérémy Procoche, finis la tendresse.
Eh oui, finis les caresses. De quoi il a parlé au téléphone?
Si on allait à Capri.
Et qu'est-ce que t'as dit?
Je lui ai dit que ça dépendait de toi.
T'es malade, non? Mais qu'est-ce qu'il te prend? Tu sais très bien que ça dépend de toi et pas de moi.
Alors viens à Capri.
Non.
Pourquoi, il y a quelque chose entre toi et Procoche?
T'es un pauvre type.
Allez, assieds-toi là, il faut que je te parle.
Je t'ai dit qu'on allait au cinéma.
Camille, écoute-moi, il faut que je te parle.
Alors ils font s'asseoir en face à face avec une énorme lampe au milieu et derrière eux une fenêtre qui ouvre vers l'extérieur. Et quand ils se parlent, la lampe s'allume et s'éteint. On passe de l'ombre à la lumière et la caméra va tout d'un coup faire des travelling pendulaires.
Avant que le téléphone sonne, je t'ai dit que je ne voulais pas faire ce travail parce que je n'étais plus sûr de ton amour. Et tu m'as dit que tu m'aimais. Et qu'il fallait accepter.
Ouais.
Je suis sûr que tu as menti. Pourquoi, je sais pas. Par pitié.
La caméra glisse sur Camille, donc à ce moment-là.
Quel intérêt tu pars ?
Paul est off.
Rester dans cet appartement que tu me veux.
Comment est-ce que tu peux savoir ce que je pense ? Justement, ça m'est complètement égal. Cet appartement, vends-le. Je m'en fous.
En rentrant, tu m'as dit que tu y tenais, que c'était bien mieux que l'hôtel.
Pas le moins du monde. Je dis ça pour te faire plaisir.
Enfin, là n'est pas le plus important. Je veux savoir pourquoi tu as menti tout à l'heure.
Mais personne ne dit que je t'ai menti. Arrête!
Si. Je sens que tu ne m'aimes plus.
À quoi ça te servira de savoir ce qui est vrai?
Ouais, tu reconnais que j'ai raison.
Pas du tout, je reconnais rien. Je veux que tu me laisses tranquille. C'est vrai. Je t'aime plus.
Le fait que la caméra se balade de droite à gauche.
Pourquoi? Hier, tu m'aimais encore?
Oui. Beaucoup. Maintenant, c'est fini.
Il y a bien une raison.
Oui, sûrement.
Laquelle?
Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime plus.
C'est chez Jérémy Procoche? Quand tu m'as vu donner une tape sur le derrière de Francesca Vanini?
Oui, admettons que c'est ça. Bon, maintenant c'est fini, on n'en parle plus.
Depuis ce matin, il s'est passé quelque chose qui a changé l'idée que tu avais de moi. Donc, ton amour pour moi.
Tu es fou, mais tu es intelligent.
Alors, c'est vrai.
Ils sont maintenant tous les deux debout.
J'ai pas dit ça. J'ai dit que tu étais intelligent.
Quand tu es venu me chercher ce matin, j'ai dit quelque chose ou fait quelque chose et puis tu l'as pris d'une autre façon, c'est ça?
C'est possible.
Mais elle ne me parle pas comme ça, je m'entends, je ne me parle pas comme ça.
Elle le frappe. Et elle parle sur le début de la musique.
Camille.
Et elle ouvre la porte. Elle descend l'escalier. Il y a une ellipse de temps qui montre que la voiture part et donc Paul rentre.
Attends-moi quand même, tu exagères.
La voiture en coupe presque en... alors qu'elle est en train de rouler. Ils sont tous les deux à l'arrière de la voiture.
Les choses que je t'ai dites, Paul. Fais comme si je n'avais rien dit.
Et la séquence se termine dans le noir. Il fait nuit, c'est la nuit. Donc c'est un film évidemment qui... là vous voyez tout d'un coup le personnage de Camille qui rentre, qui est à la fois dans la lumière et dans l'ombre. Et en plus de ça, je vous disais que quand ils font ce dialogue, la caméra se balade de droite à gauche, comme ça, continuellement, comme un mouvement pendulaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se dire, puisque la caméra ne coupe pas, ils sont vraiment en harmonie. Eh bien non, ça fait exactement le contraire, ça les éloigne l'un de l'autre et ça accentue l'incommunicabilité entre ces deux personnages. Donc ça, c'est quand même une réalisation cinématographique qui est vraiment de qualité. Alors ce film, évidemment, parle beaucoup de cinéma. On entend Michel Piccoli qui dit qu'il est allé voir un film, qu'il voudrait faire un film comme Antonioni. Il y a des allusions à Rossellini avec, sur des affiches dans... évidemment, n'en parlons pas de Fritz Lang, bien évidemment. Mais en même temps, on s'aperçoit que le cinéma italien est fini. D'ailleurs, Francesca, d'ailleurs, est un personnage très intéressant parce qu'elle c'est l'assistante de Procoche, donc le producteur, qui est un producteur odieux, un petit peu comme on a pu le voir dans le film de Mankiewicz, la comtesse aux pieds nus. C'est un type complètement abruti, mais enfin, comme il a le pognon, tout le monde, évidemment, se met à deux genoux en terre, quoi, voilà. Et donc, c'est un personnage, en plus de ça, qui Procoche est très colérique. Tout d'un coup, il donne des coups de pied dans les bobines de film, il n'est pas content, il se prend pour un dieu. Mais en réalité, il est vraiment qu'un demi-dieu, et c'est-à-dire, c'est à la fois peut-être sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire, il a du pouvoir, bon, voilà. Donc, c'est un film qui parle beaucoup de cinéma. Au-delà de tout ça, on s'aperçoit que c'est une mise en abîme véritablement au sens strict, c'est-à-dire que l'odyssée que tourne Fritz Lang, c'est aussi l'odyssée que vivent Camille et Paul. C'est un film qui use aussi à la perfection l'image, de l'intérieur de l'image, donc avec les livres de photos que je vous ai dit, mais aussi avec des cadrages intéressants. À un moment, Camille, vraiment méprise Paul, et elle fait exprès de se laisser embrasser par Procoche. Elle le fait dans l'embrasure d'une fenêtre, et qui est dans un grand mur, et on voit Paul qui est tout à fait au-dessus, qui les a vus, donc cadrés dans le cadrage de la fenêtre, qui lui-même est cadré dans le cadrage du film. Quoi, voilà. Vous voyez, donc ça c'est quand même très intéressant. C'est aussi un film qui utilise à la perfection le son, puisque je vous disais, Francesca, qui est donc l'assistante de Procoche, elle traduit toutes les langues, parce qu'il y a donc un allemand, un américain, un français, et donc à chaque fois elle redit les phrases qu'on vient d'entendre, mais d'une façon traductrice, c'est-à-dire le sens on ne l'a plus, mais on a le son, voilà. Et donc ça c'est comme un écho qui accompagne d'ailleurs formidablement bien la musique de Delerue que nous venons d'entendre. Et puis c'est un film qui démontre que l'écriture d'un film s'appuie aussi sur le passé, notamment les dieux d'Homère, puisqu'il s'agit de l'Odyssée. Il y a des citations de Dante, de Brecht aussi. Je crois que c'est Fritz Lang qui dit à un moment « Je vais au marché vendre des mensonges ». Ben oui, les mensonges, c'est le cinéma, au fond. Hein. On y est en plein. Ça montre aussi l'état du cinéma dans ces années 60. Et puis ça montre aussi Bardot qui joue son propre rôle. J'ai envie de dire que Camille, c'est un peu, c'est même complètement Bardot. Voilà. Alors sur la fin, on va peut-être écouter la fin, la dernière séquence où Brigitte Bardot le méprise tellement qu'elle va finir par quitter Paul, et elle part dans la voiture de Procoche puisqu'il doit aller à Rome. Donc on écoute la dernière séquence du film. Je passe à la... Elle va lui écrire une lettre, et c'est celle qu'on entend en l'œuf.
« J'ai enlevé les balles. Puisque tu ne veux pas partir, c'est moi qui m'en vais. Je profite de ce que Jérémy Procoche doit rentrer à Rome pour partir avec lui. Après... J'irai vivre seule à l'hôtel, je pense. Je t'embrasse. Adieu, Camille. »
Et là, on la voit dans la voiture de Procoche. Il s'arrête à une station essence.
Bonjour. Paul. Pieno, pieno.
Elle se détend, elle est habillée en sombre, avec un petit chapeau blanc.
What are you gonna do in Rome?
Et la première fois qu'elle est montée dans la voiture de Procoche, le montage de Godard a mis un certain nombre de petits plans, des inserts très rapides, très courts, où on la voyait justement avec ce chapeau. C'était comme une prémonition de ce qui allait se passer.
You're out of your head.
Donc les voilà repartis. Ils sont dans la voiture. On est sur le texte lisible. Le texte de Camille, adieu Camille, signé. Et on s'aperçoit, on a entendu un off, un bruit d'un accident. Et là, la caméra arrive, toujours travelling latéral. Et on découvre la voiture rouge qui est coincée entre deux camions et qui est évidemment avec les deux personnages morts. Et en même temps, c'est filmé d'une façon tellement improbable, on n'y croit pas. Et c'est une façon aussi de dire que le cinéma, il faut arrêter avec la réalité. Le cinéma, c'est pas la réalité. Le cinéma, c'est la fiction. C'est l'imaginaire, c'est la poésie. Et là, on découvre évidemment Paul Faval, donc joué par Piccoli, qui ne sait pas évidemment l'issue de du départ. Il remonte les escaliers dans cette villa incroyable qui est à Capri. C'est la villa de Malaparte qui domine, qui est sur un rocher, qui a notamment, il est en train de gravir les marches. Il y a, je ne les ai pas comptées, mais au moins une centaine de marches. Il arrive sur une terrasse au sommet de tout et il va découvrir le tournage qui se continue, tournage de Fritz Lang du film L'Odyssée. Quand il arrive, toujours travelling latéral, il avance et va se faire menacer par le personnage qui joue Ulysse, le vrai, si je puis dire. La caméra continue. Ulysse étant, je le répète, le double un peu de... Il arrive devant devant Fritz Lang.
Monsieur Lang, je viens vous dire au revoir.
Au revoir. Qu'est-ce que vous ferez ?
Le point.
Je vais retourner à Rome. Je vais finir d'écrire ma pièce de théâtre.
Bon.
Et vous ?
Je termine le film. Il faut toujours terminer qu'est-ce qu'on a commencé.
Donc ça veut dire que Paul a décidé de ne plus travailler sur ce film pour garder l'amour de Camille.
Il tac.
Alors,
au revoir, monsieur Lang.
Au revoir.
Ulysse revient à Ithac. Nous allons voir que c'est pas aussi simple que ça.
Monsieur Lang, on est prêt.
Merci.
Vous venez d'entendre la voix de Godard.
Caméra.
Moteur.
Motore. Partito.
Chac.
Odissea 14702 prima.
Avanti.
Azione.
Travelling.
Carello.
Le travelling commence, tiré par le machiniste. Passe. On voit de dos Ulysse. L'épée brandie vers Ithac. Invisible, au loin, devant une mer d'huile. La caméra dépasse Ulysse et s'arrête sur la mer. Ciel et mer se confondent.
Silence.
Silencio.
Voilà. Et évidemment, le dernier mot du film, c'est silencio. Ça correspond exactement à tout ce qu'on a entendu, ce que je vous disais à propos du personnage de Bardot et du couple qui a beau se parler, il reste toujours quand même dans le silence. Et le film se terminant par silencio, on a bien compris que c'était complètement... c'est le cœur du film, hein, c'est le cœur du film. Et j'ai envie de faire conclure ce qu'on pouvait dire du mépris par Godard lui-même qui disait « Le mépris, c'est un film simple. Le cinéma, c'est comme dans la vie. Il n'y a rien de secret, rien à élucider, il n'y a qu'à vivre et à filmer. » Sur ces paroles de Godard, je vous dis au revoir. Et bientôt, puisque vous le savez, FM Plus va pouvoir diffuser toutes les après-midi. Je pense que cette émission sera rediffusée. On vous le dira, évidemment, à quel jour et à quelle heure. Eh bien, merci Stéphane qui est derrière les manettes. Et puis, écoutez, on se revoit mercredi prochain.